Bonjour chers auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle actualité du pape. Et pour commencer, alors habituellement je commence par la catéchèse, mais cette fois je vais continuer la lecture du texte Dignitas Infinita que Olivier a commencé dans les actualités du pape précédentes. Donc pour retrouver le texte, vous pourrez retrouver ça dans les podcasts. Et donc Olivier s'était arrêté au paragraphe 40 sur le travail des migrants, et donc c'est à cet endroit-là que je vais reprendre. Les migrants sont parmi les premières victimes des multiples formes de pauvreté. Non seulement leur dignité est bafouée dans leur pays, mais leur vie même est mise en danger, car ils n'ont plus les moyens de fonder une famille, de travailler ou de se nourrir. De plus, une fois arrivés dans les pays qui devaient pouvoir les accueillir, ne sont pas jugés assez dignes pour participer à la vie sociale comme toute autre personne, et l'on oublie qu'ils ont la même dignité intrinsèque que quiconque. On ne dira jamais qu'ils ne sont pas des êtres humains, mais dans la pratique, par les décisions et la manière de les traiter, on montre qu'ils sont considérés comme des personnes ayant moins de valeur, moins d'importance, dotées de moins d'humanité. Il est donc toujours urgent de rappeler que tout migrant est une personne humaine, qui en tant que telle possède des droits fondamentaux, inaliénables, qui doivent être respectés par tous et en toutes circonstances. Les accueillir est une manière importante et significative de défendre la dignité inaliénable de chaque personne humaine, indépendamment de son origine, de sa couleur ou de sa religion. La traite des personnes. La traite des personnes humaines doit également être considérée comme une grave violation de la dignité humaine. Elle n'est pas nouvelle, mais son développement prend des dimensions tragiques qui sautent aux yeux. C'est pourquoi le pape François l'a dénoncée en des termes particulièrement forts. Je réaffirme que la traite des personnes est une activité ignoble, une honte pour nos sociétés qui se disent civilisées. Les exploiteurs et les clients, à tous les niveaux, devraient effectuer un sérieux examen de conscience devant eux-mêmes et devant Dieu. L'Église renouvelle aujourd'hui son appel puissant, afin que soit toujours protégée la dignité et la place centrale de chaque personne, dans le respect des droits fondamentaux, comme le souligne sa doctrine sociale, des droits qu'elle demande que l'on étende réellement là où ils ne sont pas reconnus à des millions d'hommes et de femmes sur chaque continent. Dans un monde dans lequel on parle beaucoup de droits, combien de fois la dignité humaine est-elle en réalité piétinée? Dans un monde où l'on parle tant de droits, il semble que le seul à les avoir soit l'argent. Pour ces raisons, l'Église et l'humanité ne doivent pas renoncer à lutter contre les phénomènes de commerce d'organes et de tissus humains, d'exploitation sexuelle d'enfants, de travail d'esclaves, y compris la prostitution, de trafic de drogue et d'armes, de terrorisme et de crimes internationaux organisés. L'ampleur de ces situations et le nombre de vies innocentes qu'elles sacrifient sont telles que nous devons éviter toute tentation de tomber dans un nominalisme de déclaration à effet tranquillisant sur les consciences. Nous devons veiller à ce que nos institutions soient réellement efficaces dans la lutte contre tous ces fléaux. Face à des formes aussi diverses et brutales de négation de la dignité humaine, il est nécessaire de prendre de plus en plus conscience que la traite des personnes est un crime contre l'humanité. En substance, elle nie la dignité humaine d'au moins deux manières. La traite défigure l'humanité de la victime, en offensant sa liberté et sa dignité. Mais dans le même temps, elle déshumanise celui qui la commet. Abus sexuel. La profonde dignité inhérente à l'être humain dans la totalité de son corps et de son esprit permet également de comprendre pourquoi tout abus sexuel laisse de profondes cicatrices dans le cœur de celui qui le subit. Il se sent en effet blessé dans sa dignité humaine. Il s'agit de souffrances qui peuvent durer toute la vie et auxquelles aucun repentir ne peut porter remède. Ce phénomène est diffus dans la société, mais il touche aussi l'Église et représente un sérieux obstacle à sa mission. D'où son engagement constant pour mettre fin à tous les types d'abus, en commençant par elle-même. Les violences contre les femmes. Les violences contre les femmes sont un scandale mondial, de plus en plus reconnu. Alors que l'égale dignité des femmes est reconnue en parole dans certains pays, les inégalités entre les femmes et les hommes sont très graves, et même dans les pays les plus développés et les plus démocratiques. La réalité sociale concrète témoigne du fait que les femmes ne sont souvent pas reconnues comme ayant la même dignité que les hommes. Le pape François souligne ce fait en affirmant que l'organisation des sociétés dans le monde entier est loin de refléter clairement le fait que les femmes ont exactement la même dignité et les mêmes droits que les hommes. On affirme une chose par la parole, mais les décisions et la réalité livrent à corps et à cri un autre message. C'est un fait. Doublement pauvres sont les femmes qui souffrent des situations d'exclusion, de maltraitance et de violence, parce que, souvent, elles se trouvent avec de plus faibles possibilités de défendre leurs droits. Saint Jean-Paul II reconnaissait déjà qu'il reste encore beaucoup à faire pour que la condition de femme et de mère n'entraîne aucune discrimination. Il est urgent d'obtenir partout l'égalité effective des droits de la personne et donc la parité des salaires pour un travail égal, la protection des mères qui travaillent, un juste avancement dans la carrière, l'égalité des époux dans le droit de la famille, la reconnaissance de tout ce qui est lié aux droits et aux devoirs du citoyen dans un régime démocratique. Les inégalités dans ces domaines sont des formes de violences diverses. Il a également rappelé qu'il est temps de condamner avec force, en suscitant des instruments législatifs appropriés de défense, les formes de violences sexuelles qui ont bien souvent les femmes pour objet. Au nom du respect de la personne, nous ne pouvons pas non plus ne pas dénoncer la culture hédoniste et mercantile, fort répandue qui prône l'exploitation systématique de la sexualité, poussant même les filles dès leur plus jeune âge à tomber dans les circuits de la corruption et à faire de leur corps une marchandise. Parmi les violences faites aux femmes, comment ne pas mentionner la contrainte à l'avortement, qui touche aussi bien la mère que l'enfant, si souvent pour satisfaire l'égoïsme des hommes. Et comment ne pas mentionner également la pratique de la polygamie, qui, comme le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, est contraire à l'égale dignité de la femme et de l'homme, et également contraire à l'amour conjugal qui est unique et exclusif. Dans cet horizon de violence à l'égard des femmes, le phénomène du féminicide ne sera jamais assez condamné. Sur ce front, l'engagement de toute la communauté internationale doit être compact et concret, comme l'a rappelé le pape François. L'amour pour Marie doit nous aider à avoir des attitudes de reconnaissance et de gratitude envers la femme, envers nos mères et nos grands-mères, qui sont un rempart dans la vie de nos cités. Presque toujours silencieuses, elles font avancer la vie. C'est le silence et la force de l'espérance. Merci pour leur témoignage. Toutefois, en regardant les mères et les grands-mères, je voudrais vous inviter à lutter contre un fléau qui touche notre continent américain. Les nombreux cas de féminicide. Il y a de nombreuses situations de violence qui sont étouffées derrière tant de murs. Je vous invite à lutter contre cette source de souffrance en demandant que soit encouragée une législation et une culture du rejet de toute forme de violence. l'avortement. L'Église ne cesse de rappeler que la dignité de tout être humain a un caractère intrinsèque qui vaut depuis le moment de sa conception jusqu'à sa mort naturelle. C'est précisément l'affirmation de cette dignité qui est le préalable incontournable à la protection d'une existence personnelle et sociale, ainsi que la condition nécessaire pour que la fraternité et l'amitié sociale puissent se réaliser parmi tous les peuples de la terre. En se fondant sur cette valeur intangible de la vie humaine, le magistère de l'Église s'est toujours prononcé contre l'avortement. À cet égard, Saint Jean-Paul II écrit « Parmi tous les crimes que l'homme peut accomplir contre la vie, l'avortement provoqué présente des caractéristiques qui le rendent particulièrement grave et condamnable. » Mais aujourd'hui, dans la conscience de nombreuses personnes, la perception de sa gravité s'est progressivement obscurcie. L'acceptation de l'avortement dans les mentalités, dans les mœurs et dans la loi elle-même est un signe éloquent d'une crise très dangereuse du sens moral, qui devient toujours plus incapable de distinguer entre le bien et le mal, même lorsque le droit fondamental à la vie est en jeu. Devant une situation aussi grave, le courage de regarder la vérité en face et d'appeler les choses par leur nom est plus que jamais nécessaire, sans céder à des compromis par facilité ou à la tentation de s'abuser soi-même. À ce propos, le reproche du prophète retentit de manière catégorique. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres. Précisément dans le cas de l'avortement, on observe le développement d'une terminologie ambiguë, comme celle d'interruption de grossesse, qui tend à en cacher la véritable nature et à en atténuer la gravité dans l'opinion publique. Ce phénomène linguistique est sans doute lui-même le symptôme d'un malaise éprouvé par les consciences. Mais aucune parole ne réussit à changer la réalité des choses. L'avortement provoqué est le meurtre délibéré et direct, quelle que soit la façon dont il est effectué, d'un être humain dans la phase initiale de son existence, située entre la conception et la naissance. Les enfants à naître sont ainsi les plus sans défense et innocents de tous, auxquels on veut nier aujourd'hui la dignité humaine, afin de pouvoir en faire ce que l'on veut, en leur retirant la vie et en promouvant des législations qui font que personne ne peut l'empêcher. Il faut donc affirmer avec force et clarté, y compris à notre époque, que cette défense de la vie à naître est intimement liée à la défense de tous les droits humains. Elle suppose la conviction qu'un être humain est toujours sacré et inviolable, dans n'importe quelle situation, et en toute phase de son développement. Elle est une fin en soi, et jamais un moyen pour résoudre d'autres difficultés. Si cette conviction disparaît, il ne reste plus de fondement solide et permanent pour la défense des droits humains, qui serait toujours sujet aux convenances contingentes des puissants du monde. La seule raison est suffisante pour reconnaître la valeur inviolable de toute vie humaine. Mais si nous la regardons aussi à partir de la foi, toute violation de la dignité personnelle de l'être humain crie vengeance en présence de Dieu et devient une offense au Créateur de l'homme. L'engagement généreux et courageux de Sainte Thérèse de Calcutta pour la défense de toute vie conçue mérite d'être rappelé ici. Gestation pour autrui. L'Église prend également position contre la pratique des mères porteuses, par laquelle l'enfant, immensément digne, devient un simple objet. À cet égard, les paroles du pape François sont d'une clarté unique. À voix de la paix, la voix de la paix exige le respect de la vie, de toute vie humaine, à partir de celle de l'enfant à naître dans le sein de la mère, qui ne peut être supprimée, ni devenir objet de marchandage. À cet égard, je trouve regrettable la pratique de la dite mère porteuse, qui lèse gravement la dignité de la femme et de l'enfant. Elle est fondée sur l'exploitation d'une situation de nécessité matérielle de la mère. Un enfant est toujours un cadeau et jamais l'objet d'un contrat. Je souhaite donc un engagement de la communauté internationale pour interdire cette pratique au niveau universel. La pratique de la gestation pour autrui porte atteinte, en premier lieu, à la dignité de l'enfant. Tout enfant, en effet, dès sa conception, sa naissance, et ensuite dans sa croissance en tant que garçon ou fille, jusqu'à devenir adulte, possède une dignité intangible, qui s'exprime clairement, bien que de manière singulière et différenciée, à chaque étape de sa vie. L'enfant a donc le droit, en vertu de sa dignité inaliénable, d'avoir une origine pleinement humaine et non artificielle, et de recevoir le don d'une vie qui manifeste en même temps la dignité de celui qui la donne et de celui qui la reçoit. La reconnaissance de la dignité de la personne humaine implique également la reconnaissance de la dignité de l'union conjugale et de la procréation humaine dans toutes leurs dimensions. Dans ce sens, le désir légitime d'avoir un enfant ne peut pas être transformé en un droit à l'enfant, qui ne respecte pas la dignité de l'enfant lui-même en tant que destinataire du don gratuit de la vie. La pratique de la maternité de substitution porte atteinte, en même temps, à la propre dignité de la femme qui est contrainte ou qui décide librement de s'y soumettre. Avec une telle pratique, la femme se détache de l'enfant qui grandit en elle et devient un simple moyen asservi au profit ou au désir arbitraire d'autrui. Ceci est en contradiction totale avec la dignité fondamentale de tout être humain et avec son droit à être toujours reconnu pour lui-même et jamais comme l'instrument de quoi que ce soit d'autre. L'euthanasie et le suicide assisté. Il existe un cas particulier d'atteinte à la dignité humaine, plus silencieux, mais qui gagne beaucoup de terrain. Il a la particularité d'utiliser une conception erronée de la dignité humaine pour la retourner contre la vie elle-même. Cette confusion, très répandue aujourd'hui, apparaît au grand jour lorsque l'on parle d'euthanasie. Par exemple, les lois qui reconnaissent la possibilité de l'euthanasie ou du suicide assisté sont parfois appelées « lois sur le droit de mourir dans la dignité ». L'idée que l'euthanasie ou le suicide assisté soit compatible avec le respect de la dignité de la personne humaine est largement répandue. Face à ce constat, il faut réaffirmer avec force que la souffrance ne fait pas perdre à la personne malade la dignité qui lui est propre, de manière intrinsèque et inaliénable, mais qu'elles peuvent devenir une occasion de renforcer les liens d'appartenance mutuelle et de prendre conscience de la valeur de chaque personne pour l'ensemble de l'humanité. Il est certain que la dignité de la personne malade, dans un état critique ou terminal, exige de chacun les efforts appropriés et nécessaires pour soulager ses souffrances par des soins palliatifs appropriés et en évitant tout acharnement thérapeutique ou toute intervention disproportionnée. Ces soins répondent au devoir constant de comprendre les besoins du malade. Besoin d'assistance, soulagement de la douleur, besoin émotionnel, affectif et spirituel. Mais un tel effort est tout à fait différent, distinct, et même contraire à la décision d'éliminer sa propre vie ou la vie d'autrui sous le poids de la souffrance. La vie humaine, même dans sa condition douloureuse, est porteuse d'une dignité qui doit toujours être respectée, qui ne peut être perdue et dont le respect reste inconditionnel. En effet, il n'y a pas de conditions sans lesquelles la vie humaine cesse d'être digne et peut donc être supprimée. La vie a la même dignité et la même valeur pour tous. Le respect de la vie de l'autre est le même que celui que l'on doit à sa propre existence. Aider la personne suicidaire à mettre fin à ses jours est donc une atteinte objective à la dignité de la personne qui le demande, même s'il s'agit de réaliser son souhait. Nous devons accompagner les personnes jusqu'à la mort, mais ne pas la provoquer, ni favoriser aucune forme de suicide. Je rappelle que le droit aux soins et aux traitements pour tous doit toujours être prioritaire, afin que les plus faibles, notamment les personnes âgées et les malades, ne soient jamais écartés. En effet, la vie est un droit, non la mort. Celle-ci doit être accueillie, non administrée. Et ce principe éthique concerne tout le monde, pas seulement les chrétiens ou les croyants. Comme cela a déjà été dit, la dignité de chaque personne, même faible ou souffrante, implique la dignité de tous. La mise au rebut des personnes handicapées. L'un des critères permettant de vérifier l'attention réelle portée à la dignité de chaque individu est bien entendu l'attention portée aux plus défavorisés. Notre époque, malheureusement, ne se distingue guère par une telle attention. Une culture du déchet est en train de s'imposer. Pour contrer cette tendance, la condition de ceux qui se trouvent dans une situation de déficit physique ou psychique mérite une attention et une sollicitude particulière. Cette condition de vulnérabilité particulière, si présente dans les récits évangéliques, interroge universellement ce que signifie être une personne humaine, précisément à partir d'un état de déficience ou de handicap. La question de l'imperfection humaine a également des implications évidentes d'un point de vue socio-culturel. Dans la mesure où dans certaines cultures, les personnes handicapées souffrent parfois de marginalisation, voire d'oppression, étant traitées comme de véritables déchets. En réalité, tout être humain, quelle que soit sa condition de vulnérabilité, reçoit sa dignité du fait même qu'il est voulu et aimé par Dieu. Pour ces raisons, l'inclusion et la participation active à la vie sociale et ecclésiale de tous ceux qui sont, d'une manière ou d'une autre, marqués par la fragilité ou le handicap, devraient être encouragés autant que possible. Dans une perspective plus large, il convient de rappeler que la charité, cœur de l'esprit de la politique, est toujours un amour préférentiel pour les derniers qui animent secrètement toutes les actions en leur faveur. Prendre soin de la fragilité veut dire force et tendresse, lutte et fécondité, au milieu d'un modèle fonctionnaliste et privatisé qui conduit inexorablement à la culture du déchet. Cela signifie prendre en charge la personne présente dans sa situation la plus marginale et angoissante, et être capable de loindre de dignité. On crée ainsi, bien entendu, une activité intense, car tout doit être fait pour sauvegarder le statut et la dignité de la personne humaine. Théorie du genre. L'Église souhaite avant tout réaffirmer que chaque personne, indépendamment de sa tendance sexuelle, doit être respectée dans sa dignité et accueillie avec respect, avec le soin d'éviter toute marque de discrimination injuste et particulièrement toute forme d'agression et de violence. C'est pourquoi il faut dénoncer comme contraire à la dignité humaine le fait que dans certains endroits, de nombreuses personnes soient emprisonnées, torturées et même privées du bien de la vie uniquement en raison de leur orientation sexuelle. En même temps, l'Église souligne les points fortement critiques présents dans la théorie du genre. À cet égard, le pape François a rappelé que la voie de la paix exige le respect des droits humains, selon la formulation simple mais claire, contenue dans la Déclaration universelle des droits humains dont nous venons de célébrer le 75e anniversaire. Il s'agit de principes rationnellement évidents et communément acceptés. Malheureusement, les tentatives tentées ces dernières décennies d'introduire de nouveaux droits qui ne sont pas pleinement importants par rapport à ceux initialement définis et pas toujours acceptables, ont suscité des colonisations idéologiques, parmi lesquelles la théorie du genre joue un rôle central, qui est très dangereux parce qu'elle efface les différences dans la prétention de rendre tous égaux. En ce qui concerne la théorie du genre, dont la consistance scientifique fait l'objet de nombreux débats au sein de la communauté des experts, l'Église rappelle que la vie humaine, dans toutes ses composantes, physiques et spirituelles, est un don de Dieu, qui doit être accueilli avec gratitude et mis au service du bien. Vouloir disposer de soi comme le prescrit la théorie du genre, sans tenir compte de cette vérité fondamentale de la vie humaine comme don, ne signifie rien d'autre que céder à la tentation séculaire de l'être humain, se faisant Dieu, et entrant en rivalité avec le vrai Dieu d'amour que nous révèle l'Évangile. Un deuxième aspect de la théorie du genre est qu'elle cherche à nier la plus grande différence possible entre les êtres vivants, la différence sexuelle. Cette différence fondatrice est non seulement la plus grande que l'on puisse imaginer, mais aussi la plus belle et la plus puissante. Elle réalise, dans le couple homme-femme, la plus admirable réciprocité et est donc à l'origine de ce miracle qui ne cesse de nous étonner, à savoir l'arrivée de nouveaux êtres humains dans le monde. En ce sens, le respect de son propre corps et de celui d'autrui est essentiel face à la prolifération et à la revendication de nouveaux droits avancés par la théorie du genre. Cette idéologie laisse envisager une société sans différence de sexe et sape la base anthropologique de la famille. Aussi est-il inacceptable que certaines idéologies de ce type, qui prétendent répondre à des aspirations parfois compréhensibles, veulent s'imposer comme une pensée unique qui détermine même l'éducation des enfants. Il ne faut pas ignorer que le sexe biologique et le rôle socioculturel du sexe peuvent être distingués, mais non séparés. Par conséquent, toutes les tentatives visant à masquer la référence à la différence sexuelle inéliminable entre l'homme et la femme doivent être rejetées. Nous ne pouvons pas séparer le masculin du féminin dans l'œuvre créée par Dieu, qui précède toutes nos décisions et nos expériences, où il y a des éléments biologiques évidents. Ce n'est que lorsque chaque personne humaine peut reconnaître et accepter cette différence dans la réciprocité qu'elle devient capable de se découvrir pleinement avec sa dignité et son identité propre. Voilà, chers auditeurs, c'était la suite du texte Dignitas Infinita que Olivier avait commencé dans les émissions précédentes et bien que je continuerai à la prochaine actualité du pape jeudi prochain. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cette émission.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'était notre émission Actualité du Pape avec Raphaël. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site radiomaria.fr ou sur notre application Radio Maria Play.